signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans cet espace un peu particulier pour se demander où on en est dans le milieu universitaire depuis les déclarations de Jean-Michel Blanquer sur ce qu'il appelle l'islamo-gauchisme. Les tensions au sein de l'université autour des thèses dites racialistes ou décoloniales ne sont pas neuves, même si on ne sait pas exactement comment les appeler, mais elles ont cru en intensité brutalement après l'assassinat de Samuel Paty le mois dernier et surtout après les déclarations du ministre de l'Enseignement Jean-Michel Blanquer qui ont suivi. Sur Europe 1, dans le JDD, au Sénat, le ministre a en effet accusé les thèses racialistes ou décoloniales ou intersectionnelles encore de propager une vision du monde dont les intérêts convergeraient selon lui avec celle des islamistes. Ces déclarations de quasi-complicité ont tout de suite suscité l'indignation de la conférence des présidents d'université qui dans un communiqué a fait valoir que la recherche n'est pas responsable des maux de la société mais qu'elle les analyse. Depuis, du texte du philosophe Édouard Mel dénonçant la volonté du gouvernement de placer la recherche sous une tutelle politico-administrative au collectif Vigilance Université dénonçant au contraire la passivité des administrations face à la prégnance d'une propagande, pétitions, contre-pétitions et réactions indignées se suivent dans la presse à un rythme assez rare quand même pour un milieu assez prompt à réagir en règle générale. Deux pétitions en particulier ont lancé le débat. Le manifeste des 100 dans le Monde du 28 octobre dernier, écrit en soutien à Blanquer, et dans le même journal quelques jours plus tard, pour un savoir critique et émancipateur dans la recherche, signé par près de 2000 universitaires. Jean-François Brunstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, philosophe, professeur à Paris-Sorbonne, auteur de La philosophie devenue folle, Le genre, l'animal, la mort, et vous êtes l'initiateur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'appel des 100. Ludivine Bantigny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et vous êtes l'une des initiatrices de l'appel qui a été lancé en réponse à l'appel des 100 et qui a été signé par rien moins que 2000 personnes.
Bien plus encore.
Et bien plus encore, bien sûr. Et Nedjib Sidi Moussa, bonjour. Vous avez la particularité, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez écrit en 2016 aux éditions Libertalia un petit livre qui s'appelle La fabrique du musulman. Et vous avez la particularité de n'avoir signé volontairement aucune des deux pétitions.
Tout à fait.
Alors, Jean-François Brunstein, d'abord, on va commencer on va prendre les choses dans l'ordre, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a fait signer cette OPL d'abord?
Oui, ça a effectivement commencé avec le communiqué de la CPU, la conférence des présidents d'université, qui, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, n'était pas ému par l'assassinat de Samuel Paty, par un militant islamiste, mais était ému par les déclarations de Blanquer. Et ça faisait déjà quelques jours que la lettre de mon président d'université, la plupart des institutions, effaçaient absolument le mot islamisme. Il ne fallait pas prononcer ce mot islamisme, il fallait mettre obscurantisme, fanatisme, assassinat abject, etc. Mais il ne fallait pas prononcer le responsable du crime. Et donc, de ce point de vue-là, j'étais totalement choqué, j'étais très énervé, et j'ai contacté trois amis qui étaient aussi choqués que moi. On a fait ce texte très rapidement, qui a été signé déjà par 250 personnes. Mais effectivement, il nous semblait qu'il était absolument nécessaire, d'abord, de s'étonner que l'islamisme qui est effectivement dont tout le monde se rend compte dans le monde réel que c'est un problème, tous les universitaires font un concours pour ne pas nommer l'islamisme. Et les réactions des signataires étaient extrêmement enthousiastes en nous disant, moi aussi je ne comprends pas, je suis choqué qu'on taise cette question de l'islamisme. Et le soutien à Blanquer, bon, ça vient d'une certaine manière en plus, si je puis dire. On n'est pas d'accord, bien sûr, avec le détail, ni avec la politique de Blanquer, mais évidemment, il y a un problème islamiste dans les universités aussi, comme partout en France, et ce serait, me semble-t-il, une lâcheté que de ne pas vouloir le voir. Il me semble que c'est comme ça qu'on peut interpréter les réactions des institutions universitaires, des syndicats universitaires, des associations de spécialistes universitaires qui ne peuvent pas prononcer le mot islamisme. Il me semble que la moindre des choses face à un tel assassinat, c'est d'essayer d'en analyser les causes et donc de prononcer le mot islamisme.
Alors,
c'est
pour ça que nous avons rédigé ce texte. Votre texte a été signé par, entre autres, Pierre Nora, Isabelle Barberis, Belinda Cannon, Jacqueline Costa-Lascou, Pierre-André Taguieff, François Heilbronn, vous dites que les idéologies indigénistes, racialistes et décoloniales sont bien présentes à l'université. Elles nourrissent une haine des Blancs et de la France via une doxa anti-occidentale et un préchi-précha multiculturaliste. Vous citez Rouya Boutelja tout de suite, dont vous dites qu'elle s'est récemment félicitée du fait que le Parti des indigènes de la République rayonne dans toutes les universités. Et vous écrivez, ce qui nous menace, ce ne sont pas les propos de Jean-Michel Blanquer qu'il faut au contraire féliciter, c'est la persistance du déni. Vous allez jusqu'à appeler à la mise en place d'une structure pour créer des mesures de détection des dérives islamistes au sein de l'université.
Oui, alors ça a été signé par beaucoup de monde, et non pas seulement par des personnalités importantes, mais aussi par exemple par des spécialistes de l'islam qui ont pour beaucoup signé notre appel. D'autre part, c'est des gens qui viennent de droite, de gauche, qui sont scientifiques, qui sont littéraires, de toutes sortes. Et donc je crois qu'il y a un vrai problème lié à l'islamisme, et effectivement il faut le nommer. De ce point de vue-là, il y a eu des études au Conseil sur l'intégration il y a bien longtemps, il y a toutes sortes d'événements qui manifestent qu'il y a un problème. Un, d'islamisme, mais pas seulement. Dans la pétition, on parle effectivement du conformisme, du politiquement correct obligatoire, de la peur. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas signé seulement pour l'islamisme, mais pour l'ambiance délétère des universités. Les affaires, comme on dit, se suivent heure après heure. Certaines ont été évoquées dans votre émission. Et c'est effectivement un grave problème, c'est-à-dire que l'esprit de liberté, d'échange, d'arguments rationnels, de débats approfondis, s'échappe de l'université. Quant aux mesures à prendre, moi je dirais surtout les mesures principales à prendre, c'est de revenir au principe de l'enseignement supérieur, la liberté, l'absence de pression, l'effort vers l'objectivité, c'est un article du Code de l'éducation qui précise cela. Alors pour ce qui est alors on nous a accusés d'être des antisémites, des maccartistes, etc. Ce qui est assez drôle, étant donné la composition. Oui, bien sûr. La question, c'est par exemple faire comme a été fait dans l'enseignement secondaire, un conseil des sages de la laïcité ou une instance nationale indépendante qui pourrait donner des conseils et essayer de travailler là-dessus. De ce point de vue-là, on n'invente rien. C'est des idées qui étaient notamment proposées par le Conseil pour l'intégration. Il serait quand même très bizarre. Et alors, on a fait un site qu'on peut retrouver par le site du Monde où on a toutes sortes de témoignages tout à fait étonnants de blocage de l'échange. Moi, c'est pas du tout. Je fais pas un appel à la censure. Au contraire, et c'est assez extraordinaire parce qu'il y a eu effectivement une pluie de pétitions contre nous. Et ces pétitions, en fait, nous accusent d'être des censeurs, mais veulent nous empêcher de parler. Alors, c'est ça le problème.
Ludivine Bantigny, votre appel a été publié quelques jours après, le 4 novembre, je crois. Vous l'avez écrit, j'imagine, co-écrit en réaction à cet appel des sangs. Je vous embrouille depuis tout à l'heure. Il est signé, co-signé par Laurence Decocq, Eric Fassin, Nassira Guenif, Farad Khosrokavar, qui signe deux fois d'ailleurs dans le texte, parmi les signataires, curieusement. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors, c'est un homonyme, je ne sais pas. Allez-y.
Non, alors déjà, je voudrais revenir sur quelques éléments qui, en effet, m'ont marqué, voire choqué dans les premiers propos que j'ai pu entendre. Et je vais essayer vraiment de le faire dans la plus grande sérénité et la plus grande tranquillité. C'est un débat, mais il faut qu'il soit maintenu dans les règles, justement, de la raison et du respect des arguments d'autrui. Alors, la première chose que je voudrais souligner, c'est que vous n'avez pas à nous retirer les émotions que nous avons éprouvées au moment de l'assassinat horrible de Samuel Paty. Donc, vous n'avez pas le monopole de ces émotions. Donc, c'est très choquant que vous nous disiez « Vous n'avez pas été ému par l'assassinat de Samuel Paty. » C'est exactement... Non, s'il vous plaît. Alors là, d'accord. Vous allez me laisser tranquillement vous répondre. Vous venez d'expliquer que vous étiez choqué parce que nous n'étions pas émus par l'assassinat de Samuel Paty, mais par les propos de Jean-Michel Blanquer. Donc ça, vraiment, c'est déjà pas très digne. La deuxième chose, c'est le terme racialiste qui apparaît dès la présentation, mis sur le même plan de pensée décoloniale et pensée intersectionnelle. C'est choquant parce que le racialisme, c'est une idéologie d'extrême droite qui s'empare de la notion de race pour construire l'idée systémique d'une hiérarchie des races. Donc c'est un racisme théorisé, on le trouve chez Gobineau, chez un Vacher de la Pouge. C'est en effet le terme qui est utilisé par le Manifeste des Cent, mais c'est vraiment là aussi indigne. Parce que ce qu'il s'agit de pointer du doigt, c'est une pensée décoloniale, une pensée intersectionnelle. On va pouvoir revenir, j'espère qu'on va prendre le temps de l'expliquer. C'est tout sauf du racialisme. Et ça, c'est vraiment extrêmement choquant. Ensuite, vous dites que vous avez été accusé d'antisémitisme et que vous mettez sur le même plan de l'accusation de maccartisme. C'est vrai que l'accusation de maccartisme a été employée parce que nous avons l'impression vraiment de l'instauration d'une police de la pensée. Et là aussi, j'espère pouvoir y revenir. Mais l'accusation d'antisémitisme, bon, j'espère que vous citerez vos sources. Si vous avez véritablement été accusé d'une telle infamie, c'est en soi, en effet, une infamie. Alors, les réactions aux propos de Jean-Michel Blanquer et au manifeste des 100, elles ont été en effet gigantesques. Et c'est assez inédit comme phénomène. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, il y a eu beaucoup de textes, de tribunes publiées dans la presse. La tribune que vous avez mentionnée pour un savoir critique et émancipateur, elle a été signée en moins de 3 jours par plus de 2000 chercheuses, chercheurs universitaires de tout statut, de toute fonction. Et parmi, je vais pas faire une hiérarchie du prestige, mais il y a vraiment des chercheurs et chercheuses reconnus à l'échelle internationale. Il a été aussi, cette indignation a été exprimée aussi par un autre texte signé par des chercheurs de renommée internationale et des chercheurs qui ne sont pas français, comme Achim Mbembe, John Scott, Gayatri Spivak, entre autres, qui s'indignaient de ces accusations quand même terribles, où tout un pan des sciences humaines et sociales proposées dans l'enseignement supérieur et la recherche sont accusés d'être complices du terrorisme djihadiste. C'est vraiment, donc d'où ce texte. Fait exceptionnel, et vous l'avez rappelé, la conférence des présidents d'université, qu'on peut difficilement taxer de gauchisme, a réagi aux propos de Jean-Michel Blanquer pour exprimer justement son émotion et son indignation. Et dernière institution qui se montre tellement choquée qu'elle va jusqu'à estimer que Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui n'a pas soutenu à cette occasion les universitaires ainsi incriminés, réclame donc justement cette démission. C'est la commission permanente du Centre national des universités. Alors pourquoi cette colère ? C'est vraiment une colère sur la question de l'indignité. Je pense qu'il y a 3 points sur lesquels on pourra revenir. La première chose, c'est que les propos de Jean-Michel Blanquer interviennent à un moment justement où on est sidéré par la violence d'un attentat djihadiste qui s'en prend à un enseignant. Et donc Jean-Michel Blanquer parvient à ce tour de force, d'un côté de prétendre soutenir les enseignantes et enseignants en disant que l'éducation nationale a été choyée, ce qui a fait vraiment malheureusement rire bien jaune nombre d'enseignants, et en même temps d'accuser les enseignants-chercheurs d'être des complices du terrorisme djihadiste.
Certains.
Ça, c'est le premier tour de force.
Allez-y.
La deuxième chose, c'est que ce qui nous est proposé dans un moment où on brandit la liberté d'expression, c'est une police de la pensée. Hein. C'est, encore une fois, une élimination de pans entiers de la recherche dans les sciences humaines et sociales. Et enfin, troisième sujet d'indignation, et là, je pense qu'il faudra vraiment y revenir précisément, parce qu'on est au cœur du débat, c'est le contresens immense qui est produit avec des termes vraiment aberrants sur la haine anti-blanc, encore une fois le racialisme, contresens immense donc sur ces courants intersectionnels. Qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité ? C'est le fait de prendre en considération le fait qu'il y a des identités et des oppressions multiples, qu'il y a des oppressions liées aux origines qui engendrent du racisme, qu'il y a des oppressions liées au sexe et au genre, qui engendrent des violences, et en particulier des violences faites aux femmes, qu'il y a des oppressions liées aux appartenances sociales, aux appartenances de classe sociale, et donc l'intersectionnalité consiste à observer le croisement, intersection, le croisement de ce type d'oppression. Et donc, nous dire que c'est du racialisme, pourquoi ? Parce qu'on emploie le mot « race » en tant que construction sociale. Le mot race, il a été forgé dans les années 70, notamment par une sociologue très respectée, Colette Guillaumin. Elle disait, la race n'existe pas, et pourtant, le racisme tue. Et donc, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut parler de ce qu'on peut nommer la racisation, c'est-à-dire comment des individus, en raison de leur couleur de peau, en raison de leurs origines supposées, parfois désormais en raison de leur religion ou de leur religion supposée, sont assignés à une identité. Alors, et donc, pour terminer, Jean-Michel Blanquer parlait de mots épouvantables quand on parle de race ou de racisation, mais ce ne sont pas les mots qui sont épouvantables. Hein. C'est la réalité que ces mots décrivent qu'il s'efforce de combattre.
Il me semble que la question, une des question de fond, c'est une question qui est posée, c'est de savoir si certains savoirs sont du savoir ou si ce sont l'expression de conviction déguisée en savoir. C'est en tout cas l'accusation qui est faite. Et donc l'accusation de faire passer une idéologie pour du savoir sous couvert de science. C'est ça l'accusation qui est lancée, en tout cas. Un dernier tour de table entre vous deux, et puis ensuite je donnerai la parole à Nedjib Sidi Moussa, Jean-François Bronstein, pour répondre à ce que vient de dire.
Oui, je peux répondre sur l'accusation d'antisémitisme. C'est dans la pétition d'Open Democracy, signée par toute une série de signataires internationaux qui disent que notre attitude rappelle les heures les plus sombres de la chasse aux Juifs. Pour le reste, j'ai pas l'intention de polémiquer du tout. Il me semble qu'il y a effectivement une vraie question. C'est-à-dire que la question, vous dites racialisme, ce n'est pas du racisme, c'est abject. Je vous l'avais écrit souvent. Moi, je vois le résultat quand même. Le racialisme, c'est les réunions dans les facultés, dont la mienne, interdites aux blancs. Moi, que ce soit interdit aux blancs ou aux noirs, pour moi, c'est exactement la même chose. Je ne fais aucune différence entre tel ou tel racisme. Alors, je connais très bien les théories racialistes, les whiteness studies, ça commence à pénétrer en France. Les whiteness studies, c'est en gros l'idée de la blanchité. Si vous êtes blanc, vous êtes par essence coupable et raciste. Et si vous le niez, c'est la preuve que vous êtes encore plus raciste. Voir par exemple Thévanian, un indigène de la République que vous connaissez, les blancs sont racistes de naissance. Quand on commence à dire les blancs sont racistes de naissance, moi ça me rappelle effectivement des heures un petit peu sombres. Je pense qu'effectivement, alors Robin DiAngelo, le best célèbre mondial, whiteness, la fragilité blanche, c'est effectivement l'idée que les blancs sont par essence racisme, la fameuse histoire de racisme systémique. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, les universités américaines sont en grand péril en ce moment, justement par la profusion de ces studies, qui ne sont pas des études scientifiques au sens habituel, mais qui sont effectivement des savoirs segmentés sur le genre, sur les queers, sur les animaux, sur... les handicapés, disability studies, etc., mais qui sont des savoirs qui sont justement interdits aux autres. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec les bases de ces savoirs, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'entrer dans le champ. Et moi, de ce point de vue-là, je suggère effectivement de revenir aux disciplines traditionnelles. Bien sûr que l'histoire des femmes ou des genres, que les questions coloniales ou autres sont des questions habituelles, mais elles doivent être traitées selon les règles de la discussion scientifique habituelle, sans pétition, sans interruption de cours, etc. Je rappelle simplement, alors il y a plusieurs incidents dont on a parlé, à Kaczynski, les suppliantes, etc., mais on peut remonter plus loin, des choses plus graves encore. Sylvain Guggenheim, professeur d'histoire, parce qu'il a osé écrire que la transmission du savoir grec et d'Aristote est peut-être aussi passée par le Mont Saint-Michel et pas seulement par les sciences arabes, qui sont effectivement essentielles. Pétition, on veut qu'on fouille dans son ordinateur, etc. Même chose pour Petré Grenouillot.
On va s'arrêter là. Si possible, Lévin Mantigny, assez vite, parce que je donne la parole à Nedjib Sidi Moussa.
Il y a tellement de choses qui sont très mélangées avec des erreurs en fait vraiment d'interprétation. La première chose, c'est qu'encore une fois, je continue d'être très choquée par le fait que vous n'entendiez pas du tout l'argument sur le terme de racialisme et que vous permettiez encore de l'employer alors que c'est vraiment un terme de l'extrême droite et vous connaissez parfaitement son origine. Ça, c'est vraiment déjà ça entache et ça invalide vraiment la qualité du débat, me semble-t-il.
Alors, vous êtes favorable.
Voilà. Alors attendez, je vais reprendre en fait vos différents arguments. Ensuite, mais de quel droit vous permettez-vous de juger de la non-scientificité des études que vous mentionnez? Alors en plus, au prétexte lui-même assez scabreux, me semble-t-il, que ces études viendraient des campus aux États-Unis. Alors déjà, vous faites erreur hein, parce que ces études, et d'ailleurs le texte que je citais tout à l'heure le montre, ces études viennent d'abord d'Inde, sont présentes dans l'ensemble des campus du continent américain et pas seulement du continent nord-américain, sont présents aussi dans les Caraïbes. De toute façon, ça ne saurait en aucun cas être un argument. Mais en fait, je pense que vraiment votre pétition de principe sur la non-scientificité, bon, après, franchement, on pourrait avoir un débat sur chacun de nos travaux dès lors, hein, si on est là pour se faire juge et, excusez-moi, mais policier de la pensée, hein, puisque vraiment nier le caractère scientifique de ces travaux qui ont lieu, voilà, qui se déploient depuis 40 ans, c'est quand même vraiment grave. D'un côté, vous dites, ah oui, non, mais on doit pouvoir parler sans pétition, et c'est vous qui est à l'origine d'un texte qui en appelle à censurer. Je vous rappelle qu'il y a des colloques sur l'intersectionnalité qui ont été tout simplement censurés. Vous parlez, alors ensuite, vous nous parlez de l'affaire Sylvain Guggenheim. Mais alors là, il y a une partie des spécialistes en histoire médiévale qui a fortement réagi face à ce travail, parmi lesquels un certain Patrick Boucheron, dont je pense pas que vous puissiez le taxer.
Le Goff a signé.
Attendez,
parce que voilà, si on rentre dans le détail d'une histoire que les auditeurs ne connaissent pas, on va vite perdu.
Je réponds quand même parce que c'est un argument qui est avancé et en fait, pour moi, c'est au-delà de cet exemple qui est brandi et en effet avec ce problème que celles et ceux qui nous écoutent ne peuvent pas comprendre les enjeux s'ils n'ont pas suivi l'affaire. Mais pour moi, c'est une structure en fait de raisonnement et de pensée. C'est-à-dire que ce que nous ne voit pas, par exemple, dans le cas de Sylvain Guggenheim, c'est qu'il y a eu un débat critique sur son travail. Et c'est vraiment le propre du débat scientifique que d'examiner minutieusement les arguments avancés. Et donc, c'était un débat d'une grande qualité auquel ont participé de très éminents chercheuses et chercheurs en histoire médiévale. Donc là, il y a eu vraiment une démonstration et que vous puissiez ainsi brandir ce type d'argument pour introduire en fait une forme de confusion,
une pétition,
je pense que
c'est demander qu'on fouille dans son ordinateur.
Et enfin, dire que ces travaux, il vous suffit de les lire, dire que ces travaux sont interdits aux autres. Mais enfin, peut-être que moi, je ne vous ai pas lu, hein, mais je le ferai très volontiers. Je ne sais pas si votre travail me serait accessible. Peut-être que non. Peut-être que j'ai pas les compétences et le savoir suffisant pour entrer vraiment dans vos travaux. Mais vraiment, comment pouvez-vous affirmer que ces travaux ne seraient pas accessibles? Justement, ce sont des travaux passionnants qui sont très ouverts, qui, comme pourrait le dire justement un Patrick Boucheron, qui sont voilà une histoire de grand vent, hein, ouvert sur le monde. Et vous vous enfermez dans un corpus très étriqué en disant oh là là, ça vient des campus états-uniens, ce qui encore une fois est faux. Enfin bon, voilà. Alors, c'est une drôle de manière de raisonner, tout en se prétendant pour la liberté d'expression et la scientifique.
Nejib Sidi Moussa, si on peut essayer de sortir de cet affrontement frontal. Vous avez pour particularité de ne pas employer l'expression islamo-gauchisme, dont vous considérez qu'il s'agit d'un véritable oxymore, au même titre que intégrisme républicain, et vous avez refusé de signer les deux pétitions.
Oui, parce que je pense que les minutes qui viennent de se passer dans cette émission montrent que le débat ou le dialogue est compliqué. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent un déni qui répond à un autre, et que on emploie souvent des termes qui prêtent à la confusion, et en refusant de signer les pétitions, j'ai sachant que ma voix ne porte pas plus que ça. Hein, Mais je suis porte-parole ni représentant de rien du tout, mais que j'ai refusé. Je pense qu'il faut essayer d'éviter d'ajouter de la confusion à la confusion aujourd'hui, surtout après dans un contexte, hein, après un attentat, des attentats. On est dans une série d'attentats islamistes qui ont et tout à fait légitimement suscité une émotion énorme dans ce pays et bien au-delà. Alors pourquoi j'ai refusé de signer les deux pétitions? Ça n'enlève rien, soyons clairs, hein, au mérite de certains signataires dont j'ai pu lire les travaux, les apprécier, de certains signataires que j'ai pu croiser en manif le 1er mai ou ailleurs. Donc c'est pas une question personnelle, je pense que c'est une question d'orientation et de proposition. Première chose, je trouve que ce sont des textes qui sont extrêmement renfermés sur l'institution universitaire en tant que telle. On a l'impression qu'une pétition essaie d'appuyer explicitement Blanquer et qu'une autre essaie plutôt de façon sous-entendue ou implicite d'appuyer Vidal contre Blanquer. Ce sont des textes qui, par exemple, ne parlent absolument pas du marasme de l'université aujourd'hui, de la casse du service public, de la précarisation. Vous pouvez sourire, mais ce n'est pas du tout abordé ni dans l'un ni dans l'autre. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, des personnes ne sont pas sensibles à cette question-là, mais ce n'est pas du tout abordé. Et je pense que précisément, la destruction du service public empêche la discussion rationnelle, ou en tout cas plus ou moins apaisée. Ensuite, sur le déni, le premier texte, moi, me gênait parce qu'il y avait beaucoup d'expressions qui pouvaient être perçues à juste titre comme des anathèmes, comme des choses disqualifiantes. Vous avez parlé de mon désaccord de fond avec l'emploi du terme islamo-gauchiste, donc je ne peux pas signer un texte qui va se l'approprier. Mais d'un autre côté, le deuxième texte, le texte des 2000 et plus, ne parle absolument pas de l'islamisme, ne parle absolument pas du terrorisme islamiste. Donc il y a quand même un problème de ce point de vue-là. Et quand on voit aussi d'autres textes signés plus ou moins par les mêmes signataires, le mot islamiste disparaît. Donc effectivement, il y a un déni ou un problème ou un malaise, je pense, d'une certaine gauche qui se dit blanche aujourd'hui, qui est présente à l'université, qui n'est pas forcément majoritaire. Faut faire très attention à cela. Par exemple, je pense que le premier texte, le texte des 100, a tort quand il valorise, quand il dit que la pensée d'Ouria Boutelja trionne à l'université. Je pense que c'est pas le cas. Je pense en revanche que dans certains secteurs, notamment en sciences humaines et sociales, des thèses que l'on peut taxer de façon plus ou moins légitime de racialistes ou de différentialistes sont prépondérantes. De la même manière qu'il peut y avoir des analyses ou des discours ou même des pratiques, des alliances dans le cadre de luttes politiques où des intellectuels ou des universitaires de gauche vont siéger aux côtés de représentants de courants islamistes. Donc je pense que le problème il se situe au niveau sur ce terrain-là ou sur ce plan. Mais comme vous l'avez compris, faire entendre ce discours-là ou cette analyse est compliqué parce qu'on est pris entre deux blocs plus ou moins majoritaires qui monopolisent en quelque sorte l'espace politico-médiatique et universitaire, et faire entendre une voix nuancée, pourtant j'en ai vu, il y a eu énormément de pétitions en réaction à la première qui refusaient la bipolarisation justement, mais elles ont été
peu... Je vais rester sur vous une seconde parce que c'est intéressant de savoir aussi d'où vous veniez. J'ai tenu à ce que vous soyez là en raison aussi de votre livre La Fabrique du Musulman, oui. Parce que un des intérêts de ce livre et de vos écrits, c'est que vous dites d'où vous parlez, d'une part, c'est-à-dire que vous définissez comme un militant de gauche et même d'extrême gauche, vous citez Marx, vous citez Debord, et d'autre part, vous dites aussi d'où vous parlez généalogiquement, si je puis dire, familialement. Votre famille c'était des soutiens de Mess Ali Hadj en Algérie, si j'ai bien suivi. Et ce qui est important. Dans votre parcours, et d'autre part, dans La Fabrique du Musulman, l'idée centrale, c'est que ce que vous dites, c'est que, en gros, le débat français aujourd'hui fabrique le musulman, le débat qui se situe à l'extrême gauche ou à droite, se focalise sur la figure du musulman comme figure centrale de remplacement à l'ancien prolétariat, et que ces sources de confusion, ces sources de manipulation et ces sources de violence.
Oui, alors je précise une chose, je ne mets pas systématiquement en avant. D'ailleurs, je suis contre le fait d'avancer dans le débat public en fonction de ses origines ou de sa généalogie ou de son identité ou de sa couleur de peau ou de sa sexualité. Je pense que c'est une régression de mon point de vue. Si je l'ai dit dans mon avant-propos de mon livre, c'est uniquement suite à des remarques qui trouvaient que le texte avait besoin peut-être d'une explication ou d'une entrée en matière pour comprendre gros d'où je parle.
Vous faites valoir votre subjectivité plutôt qu'une science.
Vous parlez de celui-ci, effectivement, c'est en dehors de mes travaux de recherche qui portaient sur la question anticoloniale et l'Algérie contemporaine. Donc je fais la part des choses, j'assume le fait de... d'ailleurs, je ne suis pas à l'université, je ne suis pas recruté à l'université, donc je peux parler très tranquillement. Et donc, j'assume aussi d'avoir des engagements en public, comme chacun de nous peut l'avoir par ailleurs, mais je ne vais pas justifier ça avec ma casquette universitaire que je n'ai pas par ailleurs. Mais effectivement, sur la question de la fabrique du musulman, en fait, ce qui m'inquiétait, c'est ce que j'ai vu ces dernières années, ce que j'ai ressenti également, c'est cette espèce d'essentialisation et également de confessionnalisation, de racialisation de la question sociale qui se concentre en France ces dernières années, notamment au niveau global, il y a le 11 septembre 2001 qui a été un tournant majeur de mon point de vue pour l'histoire de l'humanité, mais aussi par la suite les débats autour du voile islamique à l'école, la question du racisme. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal à utiliser le terme islamophobie, mais ce n'est pas pour nier les discriminations ou la haine anti-musulmane qui existe dans ce pays, que l'on soit bien clair là-dessus. Sauf que j'estime que ce terme-là engendre ou alimente la confusion, puisqu'on ne sait jamais si l'on parle du racisme anti-musulman, de la haine anti-musulmane, ou alors de la critique ou du rejet de la religion musulmane. Sachant que je m'inscris dans une tradition qui est celle de la critique de toutes les religions, d'un refus de tous les racismes et aussi d'un rejet de ce système du capitalisme et de l'État. Donc là-dessus, je ne parle pas en tant qu'universitaire qui vient parler objectivement sans sa subjectivité. Oui. J'assume mon engagement. Et j'estime qu'il y a eu des glissements ces dernières années. Je pense qu'il y a eu, autour de la question musulmane, pas que de l'islamisme, mais de la question musulmane, effectivement, je pense qu'il y a des traditions de gauche qui, auparavant, étaient peut-être tiers-mondistes, internationalistes et révolutionnaires, ont peut-être fantasmé, ont peut-être cru faire bien, c'est-à-dire dans la dénonciation de mesures coercitives, notamment après après les attentats de 2015, ont cru bon de devoir dénoncer l'islamophobie d'État aux côtés d'islamistes, par exemple. Je pense que c'était une erreur et que ça a engendré de la confusion. Et que ça, et c'est aussi, et que ça a planté, soyons clairs aussi, ça a planté un couteau dans le dos de ceux qui, dans les diasporas et dans les pays arabo-musulmans, se battent contre les islamistes et qu'ils les situent, notamment ces gens de gauche, situent l'islamisme comme étant l'extrême droite musulmane. Oui. Donc il y a un très gros problème. Puisque j'ai quelques minutes et je m'arrêtais là-dessus, je pense que ce que j'ai essayé de dénoncer et avec d'autres, c'est cette alliance contre nature de militants de gauche et d'extrême gauche occidentale avec des militants de la droite ou de l'extrême droite musulmane.
Lévin Bantigny. Sur ce point.
Oui, alors c'est vrai que c'est compliqué de débattre sur un sujet portant sur l'université si on récuse le fait que il s'agit de se focaliser sur l'université. Aujourd'hui, on parle de l'université, mais moi, je sortirai de ce cadre. C'est pas une bipolarisation en fait. Hein. Le texte, par exemple, qu'on a été donc plus de 2000 à signer, c'est un texte qui a une proposition. Hein, qui s'appelle « Pour un savoir critique et émancipateur ». Hein, donc, c'est pas du tout du terme à terme. Bien sûr qu'il nous semblait très important de répondre, de ne pas laisser passer les calomnies, parce que ce sont de graves diffamations, en fait. C'est pour ça que j'ai rappelé l'importance de cette indignation qui touche même le sommet des institutions universitaires, comme la Conférence des présidents d'université. Mais voilà, il s'agit aussi de proposer d'avoir un certain regard et un certain rapport au savoir qui nous semble essentiel de rappeler sous l'angle de l'émancipation. Vous avez tort quand vous dites qu'il s'agirait d'appuyer Vidal contre Blanquer. Hein, je pense que là, il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément bien entendu, c'est que, au contraire, c'est la démission même de Frédéric Vidal qui est demandée, hein, y compris par la commission permanente du CNU, du Centre National Universitaire. Et alors, vous nous parlez du désastre, de la destruction du service public à l'université, mais vous voyez, ça fait des mois et des mois que nous manifestons, que nous nous organisons. Moi, demain, j'ai encore une assemblée générale dans ma propre université pour... Non mais là, on va pas rappeler tout le contexte. On peut rappeler, si vous voulez, le contexte justement de la précarité qui s'instaure dans tous les services publics, de la destruction de ces services publics. Là, on se focalise sur une question qui est posée. Vous pouvez aussi vous dire que le manifeste des 100, qui d'ailleurs a été d'abord très largement signé par des personnes, je vous parle pas de vous, mais qui n'ont pas mis un pied à l'université depuis très très longtemps. Hein. Mais voilà. Donc, se dit blanche.
Voilà.
Enfin, voilà. Enfin, non. Vous-même, alors là, vous introduisez une catégorie. Là, les signataires, par exemple, de ce texte, il n'est pas qu'il ne s'agit pas de réduire à une pétition. Non, c'est une participation à un débat. Mais voilà, on n'est pas. Enfin, les signataires ne sont pas blancs, pas tous blancs ou blanches. Enfin, c'est assez curieux. Mais ce que je voulais vraiment souligner par rapport à ce que vous avez dit, c'est que. Je pense que je ne serai pas entendue sur la question du racialisme, mais je vous exprime aussi ma colère de vous voir reprendre ce terme en toute connaissance de cause. Hein, racialisme, c'est grave parce qu'en fait vous accusez des antiracistes, des gens qui vouent toute leur existence à combattre le racisme, d'être des racistes. Donc c'est une inversion du stigmate qui est quand même terrible.
Ah, c'est ce que
et enfin, la dernière chose très importante que je veux souligner, quand vous semblez dire que la question des rapports sociaux, la question des rapports de classe, la question des formes d'oppression spécifiques, puisque vous vous réclamez du marxisme, de l'oppression spécifique de classe... Mais justement, elle n'est pas du tout abandonnée aujourd'hui, au contraire, par les études intersectionnelles, puisque, comme je l'ai rappelé, l'idée, c'est de croiser ces oppressions. C'est d'expliquer que une femme de ménage musulmane, noire, elle va subir voilà, une triple oppression, et même plus encore, si vous voulez. Donc,
oui.
Voilà, c'est pas possible en fait, d'orienter le débat sur l'idée d'une pure et simple racialisation. Personne n'était choqué quand Papendiaï a sorti l'ouvrage La Condition Noire.
Juste un point sur l'alliance avec l'extrême droite musulmane.
C'est une calomnie, mais c'est ça, je veux dire. Mais d'où tirez-vous cet argument? Puis vous voyez, on a même pas trois quarts d'heure pour en discuter. Et là, tout à coup, il y a des choses comme ça incroyables qui surgissent.
Il n'y a jamais eu de meeting. Il n'y a jamais eu de meeting avec participation spiritualité musulmane.
À qui vous adressez? Enfin, là, je sais pas. On est 2000 à avoir pris position. Je sais pas de quel meeting vous parlez. Je sais pas qui vous avez vu dans ces meetings. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit de défendre une position émancipatrice qui est extrêmement ferme dans la, condamnation du terrorisme djihadiste, qui ne s'arrête pas d'ailleurs au 11 septembre 2001, parce que peut-être que pour vous c'est l'événement majeur de ces dernières années, mais on pourrait, vous voyez, on peut aussi essayer d'expliquer le 11 septembre 2001, etc. Enfin, voilà, notre but, c'est encore une fois d'essayer d'analyser la situation et de proposer un savoir qui est un savoir, encore une fois, d'émancipation, qui vise en dénonçant les maux de la société, et en particulier le racisme et d'autres formes de l'oppression, en les mettant au jour, hein, en les analysant, de les combattre, hein, et d'être des instruments de ce combat.
Une seconde, Najib Sidi Moussa, et ensuite Jean-Claude Rabenstein.
J'ai essayé d'être aussi clair que possible. Je l'ai dit que je n'ai pas nié le fait que par ailleurs des signataires pouvaient être tout à fait engagés contre la destruction du service public. J'ai dit simplement que aucun des textes n'en parlait. Je le constate, c'est tout. Je ne fais rien de plus. Maintenant, vous essayez de montrer des théories critiques, notamment l'intersectionnalité. Mais est-il possible de critiquer la critique ? Aujourd'hui, non. Parce que c'est ce que vous essayez d'avancer, c'est comme si c'était le nec plus ultra finalement de l'émancipation ou la théorie critique. Vous devez tout à fait savoir qu'aux États-Unis, ils commencent à avoir des critiques de l'intersectionnalité qui sont faites à gauche, mais pas des critiques droites ou réactionnaires.
On est accusé quand même de susciter la haine des blancs, d'être des racialistes.
Mais moi, je vous accuse pas de ça. Hein.
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas du tout de faire un fétiche de l'intersectionnalité.
Jean-François Bronstein, sur les critiques que Najib Sidi Moussa.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Monsieur Moussa, parce qu'effectivement, la question de l'identité devient obsessionnelle. C'est-à-dire que on multiplie les identités. C'est ça l'intersectionnel. Et puis, qu'on est à la fois noir, femme, queer, des habilités, etc. Ça n'enlève pas que c'est une pensée uniquement identitaire. On n'existe que parce qu'on est renvoyé à son origine. Et c'est là que les conséquences sont dramatiques dans la société française. Dans une des réponses à notre pétition, quelqu'un dit « Oh, c'est de l'universalisme abstrait, il n'y a ni homme, ni femme, etc. » Elle retrouve les termes de Demestre pour critiquer la notion de droit de l'homme. Il n'y a que des Français, des Russes, etc. Bon, là, il n'y a que des Blancs, des Noirs, des Verts, etc. Moi, c'est ça qui est effectivement un vrai problème pour moi. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment un problème de style de discussion. Je trouve que le côté un petit peu enflammé de la discussion tient à quelque chose qui est théorisé par beaucoup de gens aujourd'hui dans le débat. Les sentiments, les émotions, la politique, c'est des sentiments et des émotions. Madame Montigny le dit, Iris Marion Young, la grande philosophe américaine, théorise ça, et donc la raison, c'est pas essentiel, à mon avis. Eh oui, je suis désolé.
Ah non, c'est choquant. Alors là, vraiment, là, vous êtes... Là,
mais je peux parler quand même. C'est juste que je suis en train de dire.
Bien sûr.
Je vous donne la parole.
Vous reprendrez ça ensuite. Hein.
Bien sûr.
Moi, il me semble que la raison, le calme, c'est ce qui est essentiel dans les débats. Et c'est ce qui est perdu dans l'université, où effectivement, on va regarder... Et Monsieur Moussa aura peut-être des problèmes pour rentrer à l'université avec ça, puisqu'on regarde à quelle tendance vous appartenez, quel est votre sentiment, votre émotion.
Je vais vous interrompre quand même une seconde. Vous n'avez pas peur que, en voulant lutter contre ça, en demandant l'instauration de mesures de surveillance, vous n'avez pas peur d'instaurer
là, je pense qu'il y a un malentendu.
Contrôle administratif.
Non, ce à quoi j'appelle, c'est effectivement politique. Retour aux traditions de l'université, c'est-à-dire un débat libre, calme, rationnel, échangeant des arguments, sans pétition, sans interdiction de cours. Je ne suis pas contre l'importation de choses américaines. C'est ce qui m'intéresse particulièrement. Ce contre quoi je m'élève, c'est contre l'état de déréliction de l'université américaine, qui est complètement archipélisé entre diverses tendances. Et le dernier point, donc, je pense que la raison, c'est pas mal. L'universalisme, c'est pas mal. Et il me semble que l'université aussi, c'est un savoir qui libère. Et j'ai été assez choqué à la fin de la pétition des 2000 de dire que, pour eux, les savoirs universitaires sont fondés sur l'émancipation et la dignité. C'est un parfait contresens. Les savoirs universitaires doivent amener, nous l'espérons, un esprit de libre examen, mais la politique ne commence pas à fonder l'université. L'université, le savoir n'est fondé que sur lui-même. Et évidemment, nous espérons qu'il libère, qu'il émancipe, etc. Mais ce n'est pas la base, hein, ce n'est pas le fondement. Le savoir est fondé sur lui-même. Et ce que je déplore, et là je vois que j'ai la confirmation, c'est qu'effectivement, la violence politique, les émotions submergent le débat universitaire. Il n'est plus possible de discuter tranquillement à l'université.
Lévin Montigny, très rapidement, et ensuite Najib Sidi Moussa.
Vous savez, je vous réponds aussi calmement que vous et avec des arguments fondés sur la raison. Donc vous ne pouvez pas faire ce procès. Vraiment, c'est tout à fait déplacé. La deuxième chose, c'est que vous lisez mal. Je pense que vous voyez, il y a des bibliothèques entières désormais sur la question des émotions, sur les questions d'émotions politiques. Les sciences cognitives s'y intéressent aussi, mais en aucun cas il ne s'agit de les séparer de la raison. C'est-à-dire que de plus en plus, ce qui est conceptualisé notamment, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence des émotions. Les émotions font partie de l'intelligence du monde. Mais en plus, vous m'emmenez sur ce débat des émotions comme si vous incarniez la raison. Et moi, l'émotion, c'est... Non, vraiment, en fait, on peut pas... Non. Je vous ai avancé... Non, vous avez très mal lu, vraiment, parce que là, il y a des travaux, encore une fois, auxquels j'essaie de prendre ma part, mais extrêmement rigoureux et pas du tout dans la caricature de ce clivage entre réseau et émotion que vous faites. Je vous ai donné des arguments très précis auxquels, en fait... que vous esquivez hein, pour entraîner dans un débat sur les supposées émotions alors que vous représentez le calme. Et enfin, la dernière chose qui me semble beaucoup plus importante encore, c'est ce que vous dites sur on multiplie les identités, on a un regard identitaire. Mais encore une fois, c'est votre raisonnement, il est biaisé. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces travaux qui s'intéressent en effet à ce croisement des appartenances, ils ne produisent pas la réalité. Il l'analyse. Donc, quand je vous parle, et j'aurais bien aimé que vous me répondiez l'un et l'autre sur cet enjeu, quand je vous dis qu'une femme de ménage, et je les ai vues, moi, par exemple, faire grève dans les hôtels pendant des semaines et des mois, ce sont des femmes de ménage qui se trouvent être noires, qui, pour la plupart, sont aussi musulmanes, qui sont des femmes, qui sont des mères de famille en général, enfin, dans des situations extrêmement complexes. C'est de là qu'est venue la notion d'intersectionnalité.
Non, mais on a bien compris.
C'est identitaire de dire ça? Est-ce que, justement, mettre en avant ce que subissent ces femmes, non seulement en tant que femmes de ménage, dans ce rapport de classe, dans ce rapport social, mais aussi en tant que femmes, et en tant que femmes noires subissant
on a compris l'idée.
Est-ce que c'est identitaire?
J'ai l'idée, mais alors si c'est expérience par expérience, vous voulez que je vous raconte que cet été j'ai porté des caisses dans un chantier où il y avait des travailleurs sans papiers regroupés par nationalité, ça apporte pas grand chose. La question c'est au niveau de l'intersectionnalité, il faut comprendre aussi que non seulement ça dilue la question de des rapports de classe et que de l'autre côté, on peut pas, je pense, ne l'observer sans s'en inquiéter, ça a tendance à banaliser la notion de race. Alors c'est vrai, vous pouvez le faire de façon tout à fait sophistiquée dans les colloques universitaires, mais il faut comprendre aussi qu'on est dans une vague fasciste mondial et que la banalisation de la notion de race dans ce contexte-là, moi, m'inquiète plus qu'autre chose. L'autre aspect, ce que je voulais dire également, c'est que, mais évidemment que l'islamisme ne commence pas avec le 11 septembre 2001. Je vais pas revenir sur mon histoire personnelle, mais l'Algérie a été déchirée par une guerre civile et l'islamisme, notamment dans sa forme contemporaine après la révolution islamique d'Iran, a été analysé de façon tout à fait juste par des théoriciens et des militants de l'extrême gauche comme étant réactionnaires. Aujourd'hui, il se trouve que ces courants-là le voient comme une force sur laquelle ils peuvent s'appuyer et s'allier, et c'est un gros recul.
Qui cherche la sortie avec des sonotones et des cas d'assortie. Mais toi, tu viens d'ailleurs d'une étrange spirale d'un maestro uniquement la brèche spatiale.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Audrey Dugast, avec à la réalisation Luc Jean Reynaud et à la technique Andreas Jaffré, Olivia Branger, Pierre Bernard, Viotek Noiret, Franck Malabry et Francesca Tossati.
Je t'aime et je t'attends.